Actu SF, les podcasts.
Bonjour tout le monde. Donc on va attendre que les derniers s'en soient allés et que la chaleur soit un petit peu retombée, parce que franchement, il devait y avoir des intellectuels dans le truc précédent, parce qu'il fait une chaleur à crever ici. Je sais pas comment vous tenez. Alors merci au festival d'avoir conçu des sièges permettant de mesurer l'importance des auteurs les uns par rapport aux autres, ce qui est extrêmement pratique. Et donc, je vais avoir le plaisir de laisser parler, d'encourager à parler Elisabeth von Arburg pour sa venue au festival. Et en particulier, nous allons parler d'une nouvelle trilogie qui débute en publication, qui sera intégralement publiée cette année, dont vous voyez le premier livre, La Voix des pierres, ici. Et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de lire en avance, et je pense à la chance que vous aurez de la lire, et je me dis que c'est vraiment, c'est vraiment chouette d'en parler. Voilà. Donc on attend que tout ça soit fini.
Ça marche.
Qu'est-ce qui marche plus?
Mon micro à moi, est-ce qu'il marche?
Oui, ça marche, très bien.
Il marche.
Y a pas de
okay,
soucis,
okay,
voilà.
Il marche.
D'accord. En plus, ce qui est génial, c'est que merci aux gens, je pense, c'est ActuSF qui fait toujours les enregistrements. Parce que du coup, on a cette espèce de bibliothèque de conférences d'Épinal, parce que c'est très frustrant. Épinal, il y a 3-4 conférences en même temps tout le temps, donc on ne peut pas assister à tout loin de là. Et grâce à ça, on peut retrouver sur Internet tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, enregistré, quelquefois même filmé. Voilà. Bien, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de... Enfin, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Elisabeth von Arburg, qui était écrivaine, qui est écrivaine québécoise, puisque tu as passé plus de temps au Québec qu'en France, en fait.
Oui.
Et tu as tout publié au Québec, en fait.
Je n'ai pas tout publié au Québec, puisque mes deux premiers ouvrages ont été publiés en France chez De Noël, Le silence de la cité et Le recueil de nouvelles Janus.
C'est vrai, oui, honte à moi.
Et puis ensuite, je suis restée chez les Québécois pour être publiée, en particulier chez Alire, qui est le seul éditeur de genre au pluriel au Québec. Vraiment, ce machin marche. OK. Et ça fait 45 ans cette année que je vis au Québec. Et j'ai donc passé pratiquement les deux tiers de ma vie au Québec. Donc je me considère comme québécoise, même si je n'ai pas l'accent. Mais j'utilise beaucoup d'expressions. Voilà.
Oui, mais justement, tu as une langue qui est la tienne, qui est particulièrement riche et travaillée, et dans laquelle les emprunts à certains dialectes régionaux français ou au québécois ou à d'autres termes sont quand même... Excusez-moi. Les allergies, c'est épouvantable. Merci. Et tu as aussi une faculté de créer un ensemble de mots et de t'inspirer quelquefois du vieux français quand tu en as besoin, etc. Ce qui fait que ça te fait un vocabulaire extrêmement riche. C'est presque le français englobant, si je puis dire.
C'est-à-dire que ça dépend des histoires, en fait. Mais quand on commence à écrire des histoires qui ne se passent pas au XXIe siècle, il est peut-être recommandé d'utiliser un vocabulaire qui n'est pas celui du XXIe siècle. Et donc, on est obligé d'adapter une langue, de se faire et essentiellement, éventuellement, de se créer une langue. Et quand on fait du faux roman historique, c'est nécessaire de donner l'illusion qu'au moins les personnages parlent dans la langue de leur époque. Et ça a été un des plaisirs et un des supplices du roman qui précède celui-ci, Reine de mémoire, qui est le même univers, mais 500 ans ou 600 ans plus tard, parce qu'il fallait que les gens du XVIe siècle n'utilisent pas des termes qui ne dataient pas du XVIe siècle. Je m'étais donné environ une centaine d'années de jeu, parce que ce n'est pas le même monde, il ne s'est pas développé de la même façon. Les sociétés et les langues et les technologies et les sciences ne se sont pas développées tout à fait de la même façon. Elles sont légèrement en avance par rapport à ce qu'elles sont dans notre monde à nous. Donc je me suis permis linguistiquement une espèce de fourchette de 80 à 100 ans de plus. Mais j'étais tout le temps sur le dictionnaire. Voyant, OK, ce mot-là apparaît dans la langue à quel moment? OK, c'est 40 ans à peu près après l'époque. OK, ça marche. Puis des fois, j'en avais un qui était exactement celui que je voulais utiliser, qui disait exactement ce que je voulais dire, et paf, celui-là ne marchait pas parce qu'il était moderne. Alors là, c'est la joie, quoi. Et pour ce roman-ci, c'est beaucoup plus difficile parce que...
Là, on est au XIIe siècle.
Là, on est à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Et en fait, il y a un des personnages qui vit, lui, genre entre le IIIe siècle avant l'équivalent de Jésus-Christ, c'est-à-dire les Gémeaux, puisque Jésus-Christ a toujours une sœur jumelle. Et il crée tous les deux la religion des Gémeaux, la religion géminite. Et le langage... Je n'allais pas essayer de parler en vieux français, là. Ce serait absolument illisible. Donc, pour donner une saveur d'archaïsme à la façon dont les gens parlent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise certains types de constructions, on utilise quelques mots. Mais le problème, c'est que ces mots, il faut qu'ils soient connus par le lecteur. Or, on ne contrôle pas les lecteurs, n'est-ce pas ? Et à la relecture, mes réviseurs chez Alire m'ont dit « Oui, ben ce mot-là, je ne le connais pas, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Je dis « Oups !» Et donc j'en ai supprimé quelques-uns qui étaient vraiment trop typiques. Et c'est dommage, ça retire un petit peu de la couleur locale, mais bon.
Oui, de toute façon, il y a un jeu, même quand on s'éloigne dans le futur, quand on travaille comme tu l'as fait un certain nombre d'endroits dans l'espace et dans le temps, il est clair que le langage change beaucoup quand on se base sur la réalité et que nous, on ne peut pas se le permettre. Mais le jeu que tu as fait a été aussi un jeu de doter dans la Voix des pierres en particulier, donc premier tome d'une trilogie qui sera publiée cette année, toujours chez Alire. Tu as travaillé sur le phrasé aussi. C'est-à-dire que je me rends compte qu'un certain nombre de personnages cultivés parlent avec un phrasé latin. D'autres parlent avec un phrasé beaucoup plus, je dirais, saxon, c'est-à-dire plus brutal. Et... Je ne sais pas, je pense que tu l'as fait exprès, bien entendu.
Non, je ne l'ai pas vraiment fait exprès, mais je m'en suis rendu compte après. Alors, je suis naturellement génial, c'est juste ça.
Et alors, cette trilogie, donc, et également la série de Reine de mémoire que tu publies avant, repose sur cette idée de Jésus ayant une sœur jumelle, Sophia, et donc une religion qui est... Pour certains, basé uniquement sur Jésus, les espèces d'intégristes purs chrestiens, méchants, etc. Et les autres acceptant la sœur comme étant équivalente et porteuse de cette espèce de magie, de pouvoir qui est une magie guérisseuse, une magie enseignante, une magie transformatrice, et donc faisant un type de religion complètement différent. Et bien entendu, quand vous avez deux visions différentes d'une même religion, ça s'appelle un schisme, et ça génère des croisades, des bagarres, des trucs, etc. Bon. Et en fait, ce que tu as adoré, c'est faire le conflit.
Non, ce qui m'a intéressé, c'est de voir le choc des cultures, qui n'est pas nécessairement un conflit.
Ah si.
Mais non.
Et je te rappelle quand même qu'ils se mettent un peu sur la gueule dans la trilogie quand même. Je l'ai lu. Il y a des croisades un peu quand même.
Une croisade, et cette croisade justement est une occasion où les chrétiens, qui sont la secte schismatique, qui déteste la magie, qui pense que Sophia n'était pas la sœur de Jésus, que c'est une horrible sorcière qui a dévoyé le Christ et il brûle les sorciers, etc. etc.
Ça devait être une chaudasse.
Les chrétiens, oui, non, ils ne sont pas gentils, mais enfin bon, pour eux, ils sont parfaitement dans leur bon droit. Bon, la croisade est l'occasion où les chrétiens et les géminites décident de l'union sacrée, parce que Jérusalem est en danger, attaquée par les Perses. Et donc... Le roi anglais de l'époque, qui est plutôt pour la paix et une certaine harmonie entre les peuples, indépendamment de leur religion, et surtout que c'est meilleur pour le commerce, ce roi réussit à convaincre son peuple et ses vassaux, avec l'aide du pape qui a eu une vision justement de cette union sacrée. Il réussit à réaliser cette union sacrée. On a la trêve de Jérusalem. Et c'est pendant tout le premier volume, en tout cas, et même le deuxième, la trêve de Jérusalem n'a pas été dénoncée. Donc il n'y a pas de conflit ouvert. Okay ? Mais c'est sûr que les vieilles habitudes vont reprendre le dessus. On va recommencer à descendre ces pentes habituelles et ça va se gâter. Mais ce qui m'intéressait, c'était... de prendre des personnages qui viennent d'une culture et d'une religion, puisque la religion fait partie de la culture, les gens du Nord, puisque les gens du Nord sont plutôt chrétiens que géminites, et de les déplacer. Tous mes personnages sont des personnes déplacées, sont des immigrants, comme moi au Québec. Et donc, c'est le regard qu'un immigrant porte au bout d'un certain moment, ou certains immigrants en tout cas, le regard qu'ils portent sur l'endroit d'où ils viennent et l'endroit où ils se retrouvent n'est pas celui des gens du cru. Et c'était ça qui m'intéressait de voir, parce que c'est un regard critique et ça pose des problèmes identitaires, disons, encore plus aigus à une période comme le XIIIe siècle, où la religion informe tout. Ça informe la politique, ça informe la science, la vision du monde, ça informe la façon dont on est en relation avec autrui et avec soi-même. Donc c'est quelque chose de très étranger à notre propre vision du monde d'aujourd'hui, enfin en général. Donc c'était ça qui m'intéressait. C'est pas tellement le conflit armé, bing bang boom.
C'est la notion de source unique d'information qu'on met à l'épreuve en se déplaçant vers d'autres sources uniques d'information.
Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, les sources d'information deviennent plurielles et c'est là que le bordel commence.
En fait, c'est carrément là, c'est 700 ans après, avant les premières fake news.
Ouais, c'est ça. Il y a de la désinformation, il y a toujours eu de la désinformation. C'est simplement les moyens de la disséminer qui ont changé.
Mais bon, je vais essayer de rentrer un petit peu dans le bouquin. Je vais rappeler deux, trois détails. Je m'excuse, je vais essayer d'être le moins spoiler possible. Il y a deux frères. Il y en a un ce sont des Bretons. Il y en a un qui est parti se fâcher avec
quoi
à la croisade, qui est parti à la croisade un peu fâché avec papa. Et puis papa, sur son lit de mort, demande au cadet, disant bon, il faudrait quand même que tu ailles récupérer ton frangin parce que c'est lui l'héritier, c'est lui l'aîné. Et même quoi ?
C'est pas pour cette raison-là.
C'est aussi parce que
C'est parce que le père a peut-être une vision, ou c'est peut-être son remords d'avoir renié son fils, mais il lui dit il va se perdre. Ramène-le avant qu'il soit perdu. C'est pas une question d'héritage, c'est pas une question de lignage, c'est pas une question de c'est lui l'aîné. C'est pas du tout ça.
Oui, si tu lis ton quatrième de couverture, c'est...
Ah oui, non, mais le quatrième de couverture, c'est pas moi qui l'ai écrit, celui-là. J'écrirai les deux suivants, parce que bon...
Oui, il vaut peut-être mieux, oui. Oui. Mais non, mais dans la scène quand même aussi, le cadet qui comptait... Enfin, qui était dans la logique de récupérer l'héritage ou le contrôle du domaine, dans le fond, il a ce minimum de soulagement de se dire ben, « je ne sais pas sur moi que les emmerdements vont tomber, d'une certaine façon ».
Oui, c'est ça, parce que lui ne s'est jamais vu comme l'héritier. Ça, il adore son frère, il a adoré, c'est le terme « adoré ». Il a adoré son frère, il l'adore toujours. Et il a toujours considéré que son frère était l'héritier légitime. Et donc, il est content, oui, effectivement. Et il n'hésite pas une seconde à dire à son père « oui, je vais aller le chercher », alors que c'est un voyage de plusieurs mois pour se rendre à Jérusalem, enfin, en Palestine, en Judée, on appelle ça la Judée, à l'époque.
Et puis, bien entendu, ce n'est pas là qu'est le frangin, donc
non,
en fait, on visite un peu, c'est bien, c'est intéressant, on visite l'Europe.
On visite l'Europe. On traverse la France et choisit de faire un voyage par les territoires géminites parce qu'ils sont plus sûrs. Et il va retrouver son frère en Hongrie, où une partie de l'armée christienne a été appelée pour défendre un roi qui va peut-être se convertir au christianisme, contre une partie de vilains mongols qui attaquent ses frontières du nord-est. Et là, ça se gâte, parce que 10 ans se sont passés, ou 12 ans, je ne me rappelle plus déjà, entre le moment où il a quitté son frère est parti et son frère a changé, n'est-ce pas ? Et pas forcément de la façon dont il aurait aimé qu'il changeât. Et ça devient un petit peu horrible.
Ça devient un petit peu compliqué, effectivement, parce qu'il y a évidemment des péripéties tragiques qui se produisent. On est malheureusement obligé d'avoir des péripéties tragiques dans ce genre de choses. Et ça entraîne que la restructuration des rapports familiaux est permanente. Or, ça, si je puis me permettre, c'est quand même une des constantes de ton œuvre dans un certain nombre de bouquins. Le fait que les fratries en particulier, mais aussi les je dirais les rapports familiaux au sens large, sont des terrains extrêmement mouvants dans lesquels on a le sentiment qu'on est amené, si on ne fait pas l'effort de les redéfinir, on ne peut, enfin, ils s'effondrent sur leur propre poids.
Oui, c'était un des motifs de Hôtel Olympia, par exemple, oui. Et puis bien sûr de Reine de mémoire. On tient toujours pour acquis les liens familiaux, mais en fait, ce sont des liens entre des personnes, et ces personnes ont chacune leur propre histoire dont elles sont le héros et, ou l'héroïne, et elles ont leur propre vision d'elles-mêmes, et surtout, elles changent. Elles changent, et quand on est en relation constante avec quelqu'un, on ne le voit pas forcément changer, mais s'il y a une séparation, et avec, entre-temps, des événements plus ou moins traumatisants, pour l'une des personnes, on risque d'avoir des surprises ou des mauvaises surprises. De toute façon, curieusement, moi qui suis fille unique, c'était un des motifs de mes histoires, des histoires que je me racontais quand j'étais petite. Il y a peut-être encore ici des petites filles qui se racontaient des histoires de chevaliers, je ne sais pas. Je ne me racontais pas des histoires de princesses.
On a mangé la dernière, c'était...
on a mangé la dernière. Oui, maintenant, on a l'Internet et des téléphones. Mais bon, moi, je n'avais pas ça et je n'avais pas, même pas la télévision. Donc, je me racontais des histoires de chevaliers avec des histoires de frères ennemis. Sauf qu'ils étaient ennemis à cause d'un horrible malentendu. Et après de tragiques péripéties, ils se rendaient compte que c'était un horrible malentendu et ils acceptaient de s'aimer de nouveau. Et ah, bon.
J'ai jamais songé à écrire de la romance parce que tu remplaces les deux frères par un truc, ça marche bien.
Oui, non, justement, c'était jamais des sœurs ennemies. Et pourtant, j'ai des demi-sœurs. Mais bon, alors, c'est ça. Et ce roman est d'une certaine façon, c'est d'une certaine façon l'histoire que je me racontais quand j'étais petite, et j'ai décidé qu'il était temps de me la sortir pour en avoir fini une bonne fois pour toutes avec. Sauf que c'est devenu extrêmement compliqué parce que je n'ai plus 12 ans ou 13 ans, et il m'est arrivé aussi quelques bidules en cours de route. Voilà.
Tu as aussi, dans ces livres-là, tu as toujours pareil cette redéfinition de la magie. Et qui est une magie guérisseuse, qui est une magie plutôt, enfin, qui est, j'allais dire une magie féminine, mais je vais me faire engueuler. Non, mais ce qui était une magie qui n'est jamais présentée comme étant la possibilité de combattre, etc., même si c'est utilisé de cette façon-là. C'était plutôt la magie qui aidait à soigner, qui aidait à accoucher, qui aidait à préparer les bonnes herbes et les bonnes potions, etc.
C'est une magie naturelle, c'est la magie naturelle. C'est, si tu veux la considérer comme féminine, bon, why not?
Non, mais c'est
bon. Mais disons que c'est la magie naturelle qui fonctionne. Enfin, chacun a sa propre fabrication de magie. Moi, la mienne, c'est une magie plus scientifique, parce que je viens de la science-fiction et que de toute façon, je ne considère pas que ces bouquins soient de la fantasy. Pour moi, c'est de la science-fiction. Et si vous les lisez attentivement, vous vous rendrez compte que c'est de la science-fiction en réalité.
C'est marqué fantasy historique.
Oui,
il faut vraiment que tu aies une grosse discussion avec ton éditeur, quand même, parce que...
Non, disons que j'ai disposé, comme dans Reine de mémoire, j'ai disposé des éléments qui, pour un lecteur vraiment acharné, peuvent dire, oui, bah, c'est peut-être quand même de la science-fiction. Bon, d'accord. Mais bon, n'insistons pas. Mais disons que c'est une magie, effectivement, qui est une magie qui permet un certain type de relation au monde qui n'est pas une relation d'agression. Et, mais un des motifs du bouquin, de cette série-là, c'est que elle a été utilisée, et elle peut être utilisée de façon agressive comme une magie de combat. Il y a des mages guerriers dont la spécificité est de pouvoir utiliser la magie de façon guerrière, c'est-à-dire mettre des embûches sous les pas des ennemis, les faire attaquer par des nuées de moustiques vampiriques, enfin bon, ce genre de choses. Il y a eu dans le passé de ces sociétés, un événement traumatisant, collectif, qui est la guerre des mages. Et la guerre des mages a été tellement traumatisante que c'est elle qui a déterminé le fait que la magie, c'est trois à cinq siècles plus tard, la magie commence à être institutionnalisée, c'est-à-dire encadrée. On se rend compte que si les gens commencent à avoir peur des mages, recommencent à avoir peur des mages, ça va mal tourner pour les mages, parce qu'ils ne sont pas invulnérables. On peut les tuer. Ce sont des êtres humains. Et donc, on a trouvé une espèce d'accommodement raisonnable en institutionnalisant la magie, en définissant ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas parce qu'on peut les faire qu'on doit les faire. En fait, on ne doit pas les faire. Et donc, il y a des interdits très forts. Il y a ce qu'on appelle la magie rouge, la couleur rouge est une couleur extrêmement négative pour les géminites. Et la magie rouge, c'est celle des nécromanciens, qu'on appelle nécromants en fait. Et elle est totalement interdite, elle est punie de façon extrêmement sévère. Donc, si vous voulez, on a apprivoisé les côtés dangereux de la magie en les encadrant. Mais il y a ce traumatisme collectif qui reste là. Et la magie guerrière peut être utilisée. Et on va encore l'utiliser, mais de façon très ponctuelle.
Oui, mais elle existe, on la voit apparaître. Et il y a aussi des figures déifiées qui jouent un rôle extrêmement important dans le... des forces, si je puis
dire. Des forces, par exemple.
Quand tu as le gamin qui revient en arrière et qui, comment dirais-je, qui arrive à l'endroit où, tu vois, tu vois.
Il y a des. Oui, alors. Oui, tu vois. Tout ce système-là repose, la magie repose sur le fait que les gens qui ont des talents et qu'on appelle des talentés peuvent se rendre dans ce qu'ils appellent l'entremonde, à partir duquel ils ont la capacité de manipuler notre monde à nous. L'entremonde n'est pas séparé, il est consubstantiel de notre monde. Mais lorsqu'on y a accès, on peut modifier des choses dans notre monde à nous et on peut surtout mieux connaître notre monde. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, une connaissance très fine de la matière. Et ils peuvent la manipuler, ce qui leur permet de faire des transformations, etc., etc. Et le problème, c'est qu'il y a dans cet entremonde des créatures que les humains considèrent comme surnaturelles, qui sont en fait des émanations de cet entremonde, qui parfois vivent dans notre monde parce que le fait que les humains croient en elles et les ont déifiées, les ont créées littéralement. Nous créons nos dieux, c'est l'idée. Nous créons nos créatures surnaturelles. Et ces créatures surnaturelles, il y en a une en tout cas, qui est un des personnages principaux de la série, qui est un personnage tout à fait négatif au départ, mais à un moment donné, elle va se fusionner avec une humaine. Et là, ça va devenir extrêmement compliqué pour les deux, mais je n'en dirai pas plus.
Oui, le suspense. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui absorbent l'énergie ou qui, quelquefois, se nourrissent des talentés.
Oui, et on peut se nourrir du talent d'autrui, et c'est une des choses interdites. C'est un acte de nécromancie odieux, très puni, mais cette créature-là, elle y voit pas d'inconvénient, au contraire, ça l'arrange. Et donc, elle se nourrit des humains talentés quand elle en a besoin.
Nous, d'ailleurs, quand on fait des tables rondes, qu'on se nourrit du talent des auteurs qu'on invite, c'est à peu près quelque chose qu'on fait. Mais là, par contre, c'est autorisé, vous voyez.
Oui, c'est
ça. À condition de le faire avec la hiérarchie qui va bien. Oui, non, mais ce rapport sur le pouvoir, sur le talent, il est extrêmement intéressant parce que ça pose à tout moment à la personne qui est talentée la question: qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant que tu peux faire ça? Et c'est une question quand même que tu nous renvoies en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine, en tant qu'artiste au sens large. Hein, c'est: puisque tu as ça, puisque tu as entre guillemets ce don ou cette capacité de faire, que vas-tu en faire? Que vas-tu décider de devenir pour pouvoir en faire?
La grosse différence entre Reine de mémoire, je me rends compte, entre Reine de mémoire et cette nouvelle série, c'est que dans Reine de mémoire, on a les talentés vus par eux-mêmes.
Oui.
Alors que dans La Voix des pierres, aucun des personnages principaux n'est réellement talenté. Et on ne sait pas trop. On va le savoir au fil de l'histoire, mais il y en a un qui...
On ne se voit pas en tant que tel, c'est sûr.
Oui, il y en a un qui l'est peut-être, mais qui considère ça avec beaucoup de réticence. Il y en a une autre, le personnage féminin principal, qui a une espèce de talent à éclipse. Et effectivement, c'est très difficile pour eux de se définir comme... être humain, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça m'intéressait comme ligne d'histoire, ça. C'est bien joli d'avoir des talents, bon. Je peux faire ci, je peux faire ça. Bon, est-ce que, premièrement, est-ce que je dois le faire? Et deuxièmement, est-ce que je veux le faire? J'aime pas trop la fantasy où il y a... Ok, on a des pouvoirs, youpi! Puis on fait n'importe quoi avec. Non, c'est pas... D'abord, ça ne me paraît pas tellement vraisemblable, à moins d'avoir quelqu'un qui est totalement narcissique et...
Tu as déjà vu un film Marvel récemment
ou... Oui, non, justement, oui, c'est ça. Ce ne sont pas des super-héros, vraiment pas des super-héros. Alors que j'ai l'impression que dans beaucoup de fantasy, il y a une espèce de variété de magiciens super-héros qui me fatigue beaucoup, moi. Enfin, bon.
Ça a commencé avec Gandalf, quand même, hein, d'une certaine façon. Et la façon qu'a eu Tolkien d'éviter l'écueil, c'est de le faire mourir, théoriquement, assez vite.
Oui, c'est ça.
C'est un spoiler si vous avez pas lu Le Seigneur des Anneaux, mais on espère quand
y
même
a-t-il
que.
Y encore quelqu'un qui.
Oui. De même que les rapports familiaux entre Luke et Dark Vador, éventuellement,
Oui,
c'est
c'est
bon.
ça.
Bref. Donc, mais ça, c'est vrai que cet aspect-là de dire, OK, j'ai ce truc-là, qu'est-ce que j'en fais? C'est vrai que c'était plus dans le règne de mémoire, c'était presque une fonction, j'allais dire commerciale, ou une fonction sociale,
Oui, c'est une
quoi.
fonction sociale, carrément. Moi, ça m'intéressait d'intégrer la magie à la société, d'intégrer la religion et la magie qui la soutient à la société et de voir ce que ça donne. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de parfaitement institutionnalisé et qu'on utilise dans la vie quotidienne, plus ou moins, et qui fait partie de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une espèce d'ambiance qui n'est pas une ambiance de fantasy, mais une ambiance de science-fiction. La magie est utilisée comme une science.
Oui, ce qui est aussi intéressant, enfin, ce qui moi m'a toujours emballé dans tes livres et tu le sais, c'est que au milieu de tout ça, il y a des gens. Et en fait, le cadre, le contexte, l'ensemble des lignes de force, c'est une réussite que tu, y a aucun souci de ce côté-là. Mais pour moi, ce qui vraiment me touche en tant que lecteur, c'est le fait qu'il y a des gens balancés dans tout ça et qui sont donc éduqués par un environnement étranger, une philosophie étrangère, une religion étrangère, ils ont une vision du monde complètement différente de la nôtre. Et malgré tout, tu réussis à nous les rendre prégnants, à nous les rendre, je dirais, presque frères, bien que je pense qu'on aurait du mal à s'accorder sur une vision du monde commune entre eux et nous. Que ce soit d'ailleurs pour Reine de Mémoire, où ça commence à être le siècle des Lumières, on commence à se dire, oui, c'est des gens avec qui on se dit, on pourrait discuter de la manière dont la vision du monde évolue. Mais malgré tout, c'est quand même lointain. Et dans, évidemment, la
Oui,
voix
c'est plus
des pierres
difficile
et
dans
des
la voie
roses.
des pierres parce qu'il y a une évolution souterraine de la vision du monde dans Reine de Mémoire, mais dans la voie des pierres, pas vraiment. C'est-à-dire que si les personnages évoluent, effectivement, les personnages sont obligés d'évoluer, c'est du côté d'un certain relativisme qui n'est pas du tout historique, là. Je suis dans l'anachronisme total, mais c'est délibéré. Il me semblait que c'était cohérent avec cette espèce de distinction, de dichotomie entre les chrétiens et les géminides. On veut croire à la magie, on croit à la magie, on utilise la magie. L'entremonde existe, on y est allé, c'est prouvé, c'est scientifique. Et puis les autres qui sont dans le déni et le refus total et violent, et de faire évoluer des personnages d'une de ces cultures à l'autre. Mais tu disais. Elles sont différentes, mais elles sont pas. On peut pas vraiment faire quelque chose de totalement différent. C'est pour ça qu'on peut raisonner et raisonner avec ces personnages-là. C'est que on a tous plus ou moins eu ce genre de problème. Enfin, on a tous eu. Il me semble qu'on a. Enfin, beaucoup d'entre nous ont eu affaire à ce genre de problématique face à des croyances qu'on ne partage pas ou qu'on ne partage plus. Chez des gens qu'on aime, ou donc
Oui, mais
c'est quelque chose à quoi on peut se raccrocher en lisant.
l'essentiel des gens que l'on croise, je dirais, dans nos vies quotidiennes, hein, sauf si on passe notre temps à voyager dans des régions reculées, sont des gens dont, on veut dire, l'inconscient est structuré par à peu près les mêmes forces que nous.
C'est ça, oui.
Ce qui, dans le cas particulier de la voix des pierres, n'est pas le cas. La religion
Ouais.
structure leur inconscient et leur rapport au monde d'une manière extrêmement étrange et fascinante et forte, mais très distincte de nous. C'est-à-dire que très vite, on serait sur l'incompréhension globale parce que c'est juste que leur monde n'est pas le nôtre. Et pourtant, ça fait d'eux des gens à qui on s'attache énormément.
Ah bah tant mieux.
Ouais, personnellement, moi j'en aurais adopté un ou deux pour amener à la maison, il n'y a aucun problème. Ouais.
Ce qu'il y a aussi, c'est que historiquement, dans ce monde-là, il y a des guerres, il y a des conflits. Il y a eu des conflits. Les deux religions se sont appochées, enfin, les tenants des deux religions se sont appochés pour du
Et puis il
territoire.
y a des brigands, et puis
Puis il y a des brigands,
et puis
etc.
il y a des viols,
Mais
etc. Voilà.
ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau historique, il y a des territoires qui sont maintenant chrétiens, qui étaient autrefois géminites, et vice-versa. Ce qui fait qu'il y a des gens, il y a toujours des restes, il y a toujours une mémoire. c'était bien important, le thème de la mémoire, pour moi, la devise du Québec, et je me souviens, ils se souviennent très mal, mais ça fait rien, c'est une devise qui m'a toujours beaucoup plu, et je me suis dit, quand je suis arrivée au Québec, tiens, il y a comme...
Comme une parenté.
Il y a comme une parenté. Et donc, il y a des gens qui se souviennent, et il y a les histoires, les légendes qui continuent, les histoires qu'on raconte aux enfants qui continuent à courir d'une génération à l'autre. Et à chaque génération, ils ont à se situer, certains personnages ont à se situer par rapport aux anciennes croyances de leur famille, qui ne sont plus les croyances de la famille maintenant, mais il en reste quelque chose qui fait que j'ai un peu triché, parce que la famille d'où vient le personnage principal est une famille relativement tolérante. J'aurais pu prendre une famille totalement... Mais il y a des gens intolérants dedans, en particulier le curé et oui. Le médecin, mais de la génération présente. Mais il y a eu des gens plus tolérants. Le médecin précédent était plus tolérant. L'abbé précédent était plus tolérant. Et la famille a une vision plus tolérante du monde que la vision générale du monde chrestien.
Et dans ce maillage de baronnie, de comté, etc. Tu as ceux qui sont tolérants ou acceptants, ceux qui sont beaucoup plus brutaux, etc. Enfin, comme ça se passait au Moyen-Âge.
Oui, c'est ça. Ça c'était...
Tu avais ceux qui basculaient de côté, qui basculaient l'autre. Et entre voisins, quelquefois, c'était un peu heurté, hein, c'est clair. Tu as aussi joué avec le fait que, par des artifices que je ne détaillerai pas, on arrive aux sources de la légende et cette fois, on la vit. C'est-à-dire que ce qui est vécu comme une légende au XIIe siècle, enfin, au tournant du XIIe, XIIIe, par les gens qui gardent des souvenirs, des contes racontés des grands-mères, etc., tu reviens vers l'époque où ça se produisait, et à ce moment-là, on s'aperçoit effectivement que le fond de vérité, il est parfaitement...
Oui, c'est ça, c'est le rapport entre le vrai et le réel, c'est quelque chose qui m'a toujours chicoté, dérangé, perturbé. Je viens d'une famille où les légendes familiales ont été très prégnantes dans mon enfance. Et je me suis rendu compte en grandissant qu'elles n'étaient pas forcément vraies. Elles n'étaient pas forcément réelles. Et j'ai pensé qu'on m'avait beaucoup menti. Et je crois qu'on m'a menti en partie. Mais que pour les gens qui me racontaient ces histoires, mes parents pour ne pas les cacher, c'était leur vérité à eux. Et ça devient extrêmement délicat de se situer par rapport à ça. Et l'idée que quelle partie de vrai il y a dans les histoires qu'on nous raconte ou qui se racontent, c'est un motif qui m'a toujours fascinée. On appelle ça l'évémérisme quand on veut faire joli. C'était cette théorie antique qui disait que dans tous les mythes et légendes, il y a un fond de réel. C'est vrai, il y a quelque chose qui est vraiment arrivé et qui a constitué le petit grain de sable autour duquel la perle s'est constituée. Et ça m'a toujours fascinée parce que le grain de sable dans la perle, je trouve ça fascinant, moi. Et c'est un motif, je crois, qui revient dans presque tout ce que je raconte. Et ça revient encore. De toute façon, je radote, je raconte toujours la même chose. Il y a juste les lecteurs qui ne s'en rendent pas compte.
L'astuce, c'est à chaque fois de changer de siècle, comme ça, on se dit c'est génial. C'est, ouais. Mais cette quête de la vérité, je me rappelle le Tyrannaël aussi, qui est quand même de ce côté-là un ensemble absolument spectaculaire.
C'est de la science-fiction.
Ouais, comme ça, non, tu disais.
C'est vraiment de la science-fiction.
Ah, parce qu'il y en a un autre qui n'est pas vraiment. C'est...
Ben, c'est-à-dire que c'est celui qu'on considère comme étant de la science-fiction vraiment pure et dure. C'est une histoire de planète sur 1000 ans. Bon, alors, c'est vraiment de la science-fiction, quoi.
Mais le travail, effectivement, sur la manière dont le monde se construit, sur les croyances de ce monde se construisent et sur comment on va tomber d'accord sur un ensemble de choses, ça a été quand même, c'était assez extraordinaire. Enfin, c'était... Là, on a, je dirais, tu triches un peu au sens où tu dis il y a une force unificatrice en termes de communication de la vérité qui est la religion. Soit l'une, soit l'autre, c'est pas la même. Mais elle fournit un ensemble dit cohérent et assez complexe, permettant de répondre à pratiquement toutes les situations, même si tu passes ton temps à voir des personnages, en général des femmes, et en général des femmes un peu âgées, qui sont en permanence en train de se dire qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, et vers où on pourrait aller pour aller un petit peu plus loin.
Ça, des femmes plus âgées, pas tellement dans La Voix des pierres. Plus âgé, oui, Arwen, bien sûr, d'accord.
Oui, bien sûr, c'est plus âgé.
Ouais. Un petit peu plus âgé, effectivement.
Oui, non, mais je veux dire,
elle a un regard biaisé sur tout le fourbi.
Oui, mais c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est que tu n'as pas les jeunes chez nous qui partent en quête de la vérité. Tu as plutôt les gens qui ont vécu pendant pas mal d'années avec cet ensemble cohérent, qui l'ont vu et qui l'ont fait fonctionner, qui à un moment donné se gratte la tête en disant « Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ?»
Ben, c'est l'expérience de toute... Enfin, j'ai l'impression que c'est l'expérience de toute personne déplacée. Parce qu'elle est sortie de son contexte, elle est sortie du modèle consensuel de la réalité sur lequel elle a grandi, enfin qui l'a formée, et elle a affaire à un nouveau modèle consensuel. Et là, automatiquement, il y a une, à moins qu'il y ait déni et refus, il y a une comparaison. Et si tu as deux montres qui te donnent l'heure, elles ne te donnent pas la même heure, laquelle tu choisis ? Ça devient un problème. C'est le problème de tout immigré. Comment est-ce que je m'adapte ? Est-ce que je m'adapte ? Qu'est-ce que je vais choisir d'accepter ? Qu'est-ce que je vais choisir de refuser ? Qu'est-ce qu'on va choisir d'accepter et de refuser de moi ? Et comment est-ce que je me place vis-à-vis de ça ? En fait, j'essaie de traiter de ce qui se passe aujourd'hui, comme n'importe quel auteur de genre, mais ça prend pas mal de distance pour moi pour traiter de ces choses-là. Et le problème de justement la vision du monde religieuse, aujourd'hui, me paraît un gros, 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 gros problème. Et tout ce qui en tient lieu, en fait, parce que n'importe quel fanatisme, n'importe quel fondamentalisme est de nature religieuse. C'est la vérité. Il n'y a rien d'autre à côté. Et ça, je trouve ça mortel. C'est mortel.
Ben le Nord-Amérique, en tant que continent, est quand même... les USA énormément, mais aussi le Canada et le Québec de ce côté-là, est quand même très, je dirais, très structuré par une espèce de religion à certains moments omniprésente et qu'on a du mal à contourner. Hein. Moi, chaque fois que je vais à Montréal, je suis effaré du nombre d'affiches, de symboles religieux, de choses comme ça. Les pubs pour le denier du culte, c'était quand même extraordinaire.
Combien de temps que tu es venu à Montréal ?
Ça fait il y a trois ans de ça, à Montréal, il y avait pour la publicité, à peu près à cette époque-ci, vers Pâques, donc pour le denier du culte, il y avait une publicité énorme qu'on voyait très souvent dans la ville qui montrait le Christ crucifié, puis vraiment en douleur, et ça disait « Lui, il a déjà donné ».
Ben c'est pas mal, ça.
C'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que en France, la réaction normale quand on passera là-dedans, c'est beaucoup de gens éclateraient de rire. Là-bas, ça n'a pas l'air d'être le cas.
J'ai éclaté de rire quand j'ai vu, je me rappelle cette pub, effectivement. Mais il faut comprendre que le Québec a fait son aggiornamento, a lâché les curés et machin, dans les années 70. Et que la génération des curés et sœurs défroquées est encore là. Donc, la réaction anticléricale au Québec est quelque chose de beaucoup plus fort qu'ici, où ça fait deux siècles quand même, même si on essaie de recommencer ou vaguement. Bon, ça fait deux siècles qu'on s'est débarrassé de tout ça, plus ou moins. Bon,
1905,
on a eu le temps
c'est un siècle et...
Oui, un siècle, bon, mais enfin, disons que ça a commencé à la fin du 18e siècle.
Et ça fait pratiquement cinq générations, c'est sûr.
Oui, bon, là, ça fait une génération et demie, deux générations à tout casser. C'est important, ces questions de génération, parce que une société, c'est l'ensemble de ses traumatismes. Et la religion et la façon dont elle a été, dont ses valeurs ont été imposées au Québec, a été, avec la colonisation anglaise et le lâchage par les Français, ont été les grands traumatismes culturels des Québécois. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas. Et moi, ça m'a pris, ça fait 45 ans que je vis au Québec, mais ça m'a pris, horreur, j'ai honte de le dire, mais ça m'a pris au moins 25 ans ou 30 ans avant de vraiment comprendre que ces histoires-là, pour beaucoup de gens, datent de seulement la génération de leurs arrière-grands-parents. Et donc, les légendes familiales sont extrêmement proches, extrêmement personnelles. Alors qu'ici, moins.
Il y a une notion qui est curieuse dans tes livres de manière générale. La religion est certes une chose, comme tu dis, imposée, mais en même temps, on peut l'explorer. On a le droit de jouer avec les pouvoirs. C'est des choses que justement sur lesquelles on peut faire un travail de scientifique, d'expérimentation. Tu vois. Alors que je me souviens d'avoir vu aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a deux ans, je visitais le Grand Canyon. Et il faut savoir qu'au Grand Canyon, le Grand Canyon, c'est un machin, 2 km de profondeur, 20 km de large, 420 km de long. Vous voyez le bestiau un peu. Quand vous êtes devant, vous savez que c'est énorme. Et Comme en plus l'air est très sec, vous voyez très loin et vous voyez un machin absolument gigantesque. Eh bien, vous pouvez visiter le Grand Canyon sur des bateaux qui sont sur la petite rivière, enfin le fleuve qui est en dessous et qui, croyez-moi, vu d'en haut, c'est un fil bleu. Et ces bateaux-là vous expliquent que le Grand Canyon a été créé en 40 jours par le déluge. Et vous avez des géologues à l'époque qui vous disent que ça a marché, alors qu'ils vous font la manière dont ça s'est passé et qui vous expliquent au passage que ça prouve bien que Dieu est américain quelque part. Bon. Eh bien, on n'hésite pas à faire ce genre de truc. Il y a une longue file pour faire ce truc. Ça coûtait $100, sinon je croyais, moi, je l'aurais fait juste pour savoir ce que ça dit. Mais vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Vous cherchez ça. Et donc, vous avez des gens qui vous racontent, au mépris de toute espèce d'évidence, que le Grand Canyon a été construit en 40 jours. Quand vous savez le temps qu'il faut un artisan pour faire une piscine, je veux dire, le Grand Canyon en 40 jours, c'est juste pas crédible. Voilà. Or, ça, je veux dire, en France, on l'a pas. En France, et même la plupart du temps en Europe, on n'a plus cette dimension-là du tout. Ils sont obligés d'être beaucoup plus vicieux.
Il n'y a pas de partisans de la Terre plate en France.
Il y en a peut-être trois qu'on a empaillés dans un musée. Enfin, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que...
Tu serais peut-être surpris,
on ne les voit pas.
On les voit pas, non. C'est ça, c'est qu'en Nord-Amérique... Toutes ces théories, tous les créationnistes sont extrêmement visibles depuis l'événement fatal de celui dont il ne faut pas dire le nom, l'élection du bidule, là, la chose. Tout ce monde-là est sorti est sorti du bois et on se rend compte à quel point, justement, toutes ces croyances existent encore. Et moi, c'est ça qui me fascine et qui m'afflige aussi, c'est la persistance de croyances obsolètes et souvent mortifères, et de quelle façon elles peuvent aisément ressurgir et reprendre le dessus. L'histoire bégaye, et ça, plus on vieillit, c'est une des horreurs de l'âge. L'horreur de l'âge, pour moi, c'est pas tellement les rides, mais c'est de voir revenir des choses qu'on pensait passées, finies, tous les plus jamais qui reviennent. Et ça, c'est vraiment, en ce moment, là, c'est la chose qui m'épouvante. Et dans La Voix des pierres, on le sent passer parce que le plus jamais qu'on ne veut pas voir revenir et qui menace de revenir et dont on craint tout d'un coup qu'il est revenu, c'est la guerre des mages. C'est l'usage chaotique des pouvoirs qui peuvent démolir le monde. Et c'est ça.
C'est l'emploi, en fait, de cette espèce de magie pour essayer de faire triompher une vision du monde sur l'autre au lieu d'essayer de les faire coexister.
Voilà, c'est ça.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu résous le problème, et plus tard dans Reine de mémoire, qui est antérieur, mais bon, ça prouve bien que tu as un cerveau de science-fiction, je dirais que les choses sont arrivées à un niveau de compréhension où, justement, on est d'accord pour expérimenter et on est d'accord pour que la structure sociale soit à tout moment vérifiable. Alors qu'aux États-Unis ou même dans le Nord-Amérique, il y a des moments où il y a des choses qui disent « ça ne doit pas être vérifié parce que c'est au-delà, ça doit être une croyance. » C'est un dogme. Et quand c'est un dogme, je veux dire, relatif au Grand Canyon en 40 jours, le moindre début de commencement d'éducation vous fait regarder la chose avec un état de stupéfaction béate. C'est vrai. Or, vous avez des gens sérieusement qui sont dedans. Et on se dit, quelle est la démarche de ces gens? Comment ont-ils intégré une vision du monde leur permettant de s'accommoder de ça? Moi, personnellement, j'en suis incapable.
Surtout aujourd'hui, avec le déluge d'informations et de moyens de communication, ça prend il me semble que ça doit prendre un effort conscient et délibéré, absolument épuisant, de conserver ces croyances-là.
Le nombre de films de la Terre qui ont été faits par des satellites, par des stations spatiales, par des fusées, par des trucs, il y en a, mais une quantité dingue. Le nombre de façons de voir la Terre, même avec des avions, quand vous prenez l'avion, que vous survolez...
Ah, mais ils ne prennent pas l'avion.
Ouais, d'accord. Bon, donc à un moment donné, il faut faire énormément d'efforts pour continuer à accepter que la Terre est plate.
C'est ça, c'est admirable d'une certaine façon. De faire cet effort-là. Oui, mais sauf quand on essaie de tuer les gens qui ne pensent pas de la même façon que vous, mais à part ça, c'est admirable. Hein ? Oui, c'est un refuge contre le changement, c'est un refuge contre autrui.
Est-ce que tu penses que c'est une question qu'on peut poser au public, puisque
oui,
je crois. Oui, il nous reste 10 minutes.
Demandez au public si le public a des questions.
Oui, il y a un beau micro pour faire circuler.
Ah. de ne pas tout arracher.
Oui, parce que de toute façon, tout ce qu'on a dit là, ce n'était pas vrai.
Vous ne trouverez absolument rien de tout ce qu'on a dit dans le bouquin.
Pour rebondir sur ce que vous avez dit, je dirais que c'est justement parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de transmissions d'informations numériques sur la technologie.
Parlez de près dans le micro.
Tout ce qu'on est capable de faire. Ah oui, voilà, ça va mieux. Tout ce qu'on est capable de faire technologiquement, ça donne le vertige, justement, aux gens qui n'arrivent peut-être pas à suivre. L'explication, plutôt, elle est peut-être là, en fait. C'est pas qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui est évident, c'est que ça leur fait peur. Ça leur fait peur, ça les dépasse. Et ils se sentent,
c'est pas qu'il y en a beaucoup. C'est que ça demande une souplesse. C'est-à-dire cela demande d'abandonner régulièrement le modèle qu'on utilise dans un domaine local pour le remplacer par un autre modèle qui est soit un modèle plus vaste, soit un modèle, je dirais, presque opposé ou tout au moins de nature différente.
Il y a une accélération trop forte.
Oui, c'est ça. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas câblé pour le changement perpétuel.
Non, voilà.
On est un animal de meute. La meute a une structure bien définie. Il y a ce qu'il y a à la meute, puis il y a ce qu'il y a à côté de la meute qui n'est pas la meute et qu'on doit bouffer. Mais ce n'est pas parce qu'on est un animal qu'on n'a pas, justement, on n'est pas devenu humain en dépassant ces choses-là. Et on peut les dépasser. Seulement, ça demande effectivement un effort. Et la peur est une pulsion tellement forte, aussi bien au niveau des individus que des sociétés que constituent ces individus, que ça me semble un moteur extrêmement intéressant dans une fiction, parce que la peur de l'autre, la peur du changement,
la peur de la perte d'identité.
Oui, la peur de la perte d'identité. Et ce que j'aime bien dans mes personnages, c'est que, OK, ils ont à un moment donné des flottements identitaires, et pour eux, c'est très grave. Parce que, comme je disais, la religion, au Moyen-Âge, c'était vraiment quelque chose d'essentiel dans la constitution de la personne. Ils ont des flottements identitaires, mais ils arrivent à les surmonter. Ils arrivent à les surmonter parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont un entourage, ils ont des relations avec autrui, ils ont un système de sécurité. Même si c'est juste une personne, comme pour le personnage principal masculin, il y a au moins une personne sur qui ils peuvent compter pour les mettre à la terre, les grounder, comme on dit au Québec.
Parce que là, il y a trop de personnes qui se sentent complètement laissées pour compte dans cette course à la technologie, dans cette course à la connaissance. Et c'est ceux-là qui, justement, ne sont pas aidés pour le comprendre, pas accompagnés, et qui ne vivent ça que comme une dépossession, en fait.
Ouais.
Dépossession de leur identité, de leurs racines inconscientes.
Heureusement, ce n'est pas un problème qui se pose véritablement dans La Voix des Pierres, ni même dans Reine de mémoire, d'une certaine façon, parce que, justement, la connaissance, pour les Géminites en tout cas, la vision consensuelle du monde irriguée par le fait que la magie existe et qu'elle est utilisée est une chose très répandue. Ils n'ont pas s'y adapter, c'est de même. Et pour les chrétiens, d'une certaine façon, c'est la même chose. Eux aussi ont leur système de sécurité, c'est pas de même. Donc, ils ont l'un et l'autre leur système de sécurité. Le problème, c'est quand ils arrivent au contact les uns des autres, évidemment. C'est toujours. Et c'est ça, c'est le problème du contact entre les cultures qui est le grand problème et qui est le grand problème de nos sociétés aujourd'hui et qui va devenir de plus en plus un problème.
Et le problème des différences, ou tout au moins de l'acceptation des minorités, on le voit avec les minorités sexuelles, par exemple. Ça, c'est un problème que toi, tu gères, que tu gères, je dirais, élégamment dans la Voix des Pierres, dans la suite. Oups. Parce que, dans le fond, ils sont pas trop chiants par rapport à ça, quoi, d'une certaine
manière. Même s'ils le sont. Dans la mesure où vous avez Jésus et Sophia, un homme et une femme à la tête d'une religion, où le mot-clé de cette religion, les deux mots-clés de cette religion sont harmonie et charité, dans la mesure où l'harmonie consiste à accepter ce qu'il y a de masculin dans le féminin et ce qu'il y a de féminin dans le masculin, les Géminites n'ont pas trop de problèmes avec les minorités sexuelles. Disons que dans Reine de mémoire, c'est plus affirmé parce que c'est 5 siècles plus tard. Au Moyen-Âge, il y a quand même une limite à l'anachronisme. Là. Si vous voulez, chez les Géminites, c'est suggéré que c'est relativement accepté si on n'en cause pas trop. Ils en sont au niveau don't ask, don't tell, qui est relativement un progrès par rapport à l'étape précédente.
Oui, on ne les brûle plus, quoi. Bon, c'est quand même, c'est ça. De leur point de vue, c'est quand même mieux.
Oui, de leur point de vue, c'est quand même mieux. Et effectivement, c'est ça. Et mes personnages sont toujours sexuellement, enfin, du point de vue sexuel et sexual, c'est-à-dire social et personnel, sont toujours relativement fluents. Ce ne sont pas des gens qui ont des préférences sexuelles affirmées.
Ils ne se définissent pas de cette façon.
Ils ne se définissent pas d'abord comme ça, enfin, souvent.
Oui, ce qui est rare en fantasy, parce qu'en fantasy, les archétypes de fantasy en dehors de toi sont plutôt des personnages sexués fortement. Et sexués fortement, donc obligés de suivre une sexuation qui leur est imposée. Même celui qui n'est pas hétéro, strict, homme ou femme, est censé vraiment correspondre aux critères de l'homosexualité tel qu'on l'a défini, aussi bien pour une fille. Ah ben oui.
Je ne dois pas lire assez de fantasy. Parce que les livres de fantasy, les histoires de fantasy dont je me souviens, qui souvent sont écrites par des femmes, tiens, qui est assez curieux, ont justement des personnages qui ne sont pas archétypés sexuels. Alors, je ne dois pas lire assez de fantasy, là.
Ou alors, c'est
de toute façon, le mien, ce n'est pas de la fantasy.
Oui,
alors,
c'est sûr. Bon, non, il faut que tu parles à ton éditeur. Il faut qu'il fasse une réédition en marquant science-fiction à la place de fantasy historique et 2292 sur Jupiter.
On peut se détacher des archétypes aussi bien dans la fantasy que dans la science-fiction. On ne peut pas ne pas fonctionner avec les archétypes. C'est très difficile, mais on peut jouer avec.
On peut jouer avec. Et puis, il y a effectivement toute une nouvelle génération d'auteurs, d'autrices, d'écrivaines et qui ont, en particulier aux États-Unis, qui ont essayé de renouveler le genre de cette façon-là.
Et ça date d'il y a pas mal de temps, là. Au moins 25 ans.
En France, ça n'a pas nécessairement été très bien traduit.
C'est que le problème qu'on a quand on parle des genres en France, on parle des livres qui ont été traduits, qui sont quand même une infime portion de ce qui est écrit dans les autres langues. Je ne parle pas seulement de l'anglais, mais disons essentiellement de l'anglais. Et c'est bien dommage parce qu'on a une vision extrêmement étriquée de ce qui peut se faire. Et c'est dommage pour ceux qui en écrivent parce qu'ils sont limités dans leur modèle. Puisqu'on écrit, on commence par écrire d'abord ce qu'on a lu, n'est-ce pas ? Et pas seulement au niveau du style, mais au niveau aussi de la façon dont on traite les thèmes, les motifs, les tropes. C'est dommage.
Oui, mais c'est en tout cas une réalité ici en France. Ouais. L'ensemble des modèles de personnages que l'on nous donne sont des personnages d'abord en général pour qui la sexuation, la sexualité et la sexuation sont des axes forts de définition et des actes autour duquel ils peuvent tourner, mais qui ne remettent pas le côté gender fluide, ça c'est pas trop rentré parce que ça donnerait l'impression de perdre le lecteur. Et il y a en particulier chez nous toute une littérature de romance qui est en train vraiment d'envahir le champ littéraire. Audrey, qui est bibliothécaire ici, te le dira. La romance, c'est quand même un truc qui sort beaucoup. C'est pas des personnages gender fluides du tout. C'est vraiment des personnages sexuellement canalisés, tu vois.
C'est normal. On est dans une période où justement la fluidité des genres commence à arriver à la conscience collective. Donc on essaie de se rassurer et de se sécuriser en répétant, en réitérant, en mettant en valeur la sexuation forte. C'est normal.
Mais ça peut être de la romance homo, de la romance machin, de la romance... Il y a toutes les formes de romance, et de ce côté-là, c'est très bien accepté. Mais les homos sont clairement homos, les hétéros sont clairement... Et puis personne ne se dit, après tout, je suis 90% hétéro, mais je pourrais éventuellement, pourquoi pas... Cette fluidité, on la voit pas apparaître. Hein,
et c'est dommage parce que ça retire de la complexité au personnage. Parle d'un point de vue technique, là.
Elisabeth,
les gens ne veulent pas forcément des personnages complexes. Ouais.
Le travail que nous vivons dans nos modes de pensée actuellement depuis 20 ans est une tentative désespérée de freiner la tendance au monde à se complexifier. C'est-à-dire, on cherche à éviter la complexification du monde en se rabattant sur des modèles simples qui ne fonctionnent plus bien, mais qui ont l'avantage d'être compréhensibles par tout le monde.
On essaie de ralentir. Oui.
Si je peux me permettre, pour revenir, parce que c'est comme ça je vais être dans le fil, sur la religion, la résurgence de la religion, il y a des études de Lebras qui montraient que, par exemple, dans le Maghreb, on voit une laïcisation de la société, d'où une résurgence de la religion face à ce mouvement qui est inéluctable. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a du fondamentalisme, parce que les sociétés là-bas sont en train de changer. Il y a une diminution, par exemple, du nombre d'enfants par femme, ce genre, et ça fait que, du coup, la société change, les relations changent, et donc, du coup, la religion se sent bastion assiégé et doit...
Ça a été comme ça à toutes les époques, en fait. Non, je suis sûre que chez les Égyptiens, à un moment donné...
C'est accéléré depuis vraiment une vingtaine d'années dans l'histoire.
Oui, bien sûr, il y a le mouvement d'aspiration, on essaie de ralentir.
Et c'est vraiment phénoménal. Depuis 20 ans, la religion qui progresse le plus, c'est la laïcité, de manière très, très claire. Dans toutes les religions, toutes les religions, même celles dont vous imaginez qu'elles sont les plus fortes, les plus fondamentalistes, etc., la laïcité progresse. Et la laïcité, vis-à-vis des fondamentalistes, a une attitude qui est très particulière. Elle dit « je les ignore ». Ce sont des gens dépassés, ils finiront par mourir, et moi, je suis l'avenir. Et ça, c'est une démarche que vous entendez chez tout le monde. Vous entendez,
c'est un peu terroriste comme attitude, je trouve.
Tu sais, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui faisaient la révolution du jasmin en Tunisie, des choses comme ça, etc., qui venaient du Maghreb, qui te parlent et qui te disent « mais c'est vrai que nous avons une génération de gens, il va falloir attendre qu'ils meurent ».
Mais c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des curés défroqués et des sœurs défroquées au Québec. On attend qu'ils soient passés, mais l'éducation est quelque chose qui reste beaucoup plus longtemps que les gens. C'est une chose à laquelle je suis très sensible parce que je suis née de parents vieux. Mon père avait 50 ans quand il m'a eue, n'est-ce pas ? Et il est né à la fin du 19e siècle et il a été élevé par des gens qui étaient nés au début du 19e siècle. Ben, excusez-moi, ça vous change une vision du monde. Et donc... il y a une rémanence qui dépasse la simple longueur de la vie humaine, la simple durée de la vie humaine. Et on a à jouer avec ça. Enfin, on a à jouer. On a à supporter ça. On a à dealer, comme on dit en bon québécois. On a à dealer avec ça. On doit faire avec ça. Et si on n'en a pas conscience, ben, on tombe sur des malentendus ou bien on tombe sur des fins de non-recevoir ou des cul-de-sac relationnels aigus.
Dealer est un très très vieux mot français, bien entendu, puisqu'il est québécois, qui a inspiré les Américains avec le mot dealer qu'ils utilisent aussi.
Dire. Je crois qu'on a pas mal terminé, là. Si vous n'êtes pas trop abattu par la chaleur, on va vous renvoyer à l'air frais. Oui ? Ah, il y avait une question.
Oui, merci. Je voulais juste réagir sur un point. Faire remarquer que le genre de l'imaginaire est justement celui où on pourrait s'attendre à trouver des personnages complexes.
Hélas, oui.
Ben, c'est aussi le genre dans lequel on pourrait s'attendre à trouver des lecteurs extrêmement intelligents et curieux. Et c'est donc le cas.
Non.
La preuve étant que vous êtes là. Mais il n'empêche que si on compare par exemple nos ventes à celles de Marc Lévy, pour lequel le niveau de complexité est légèrement différent, ben, il en vend quand même plus que nous. Tu vois, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais nous avons quand même ce souci-là un petit peu.
À la base, et c'était oui. Un gag.
Oui, merci. Merci de l'avoir rappelé.
Bon, bah écoutez, merci d'avoir assisté à ça. Merci d'avoir résisté à la chaleur. Merci à Elisabeth de nous avoir donné envie. Et donc, vous retrouverez son livre sur le centre, sur la bulle, dans quelques...